Hay ocasión oriental. Je réduis totalement ce qui se
passe.
Bienvenue à Parole aux auditeurs. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Et Parole aux auditeurs célèbre la Journée internationale de la femme, une journée officialisée par les Nations Unies en 1977, et elle trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle pour des meilleures conditions de travail et le droit de vote. Cette journée, c'est surtout une occasion de faire un bilan sur la situation de la femme. Le thème national est « Investissons dans la femme rurale et la jeune fille pour un avenir meilleur ». À votre avis, comment investir dans la femme rurale et la jeune fille? Notre invitée, Madame Christiane Maneno-Bagoula, elle est conseillère au cabinet du ministre de l'Agriculture au sein de la cellule d'encadrement de la femme, de la jeunesse et des confessions religieuses. Cécile Poutou, Pierre Lamégie et Clovis Louboula réalisent cette émission sous la supervision de Nicole Ndaka. Et ici, Sidia Kala est à la mise en œuvre et Marie-Santa Lumba à la présentation.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.com.
Notre invitée est dans ce studio avec nous. Bonjour, madame.
Oh, bonjour, madame la journaliste.
C'est un plaisir pour nous de vous avoir dans ce studio. Aujourd'hui, nous parlons de la journée de la femme, le 8 mars. Cette année, la journée met en exergue la femme rurale. À votre avis, pourquoi la femme rurale?
Vous savez, le 8 mars, c'est une journée où la femme doit s'arrêter pour réfléchir sur le sort d'une catégorie donnée. Mmh. Et cette catégorie est toujours donnée par les Nations Unies. Mmh. Donc, c'est à l'échelle mondiale. Mmh. Et au niveau national, on adapte les thèmes suivant les réalités du pays. Mmh. Bon, pour notre pays, c'est investissons dans la femme rurale pour un avenir meilleur. Mmh.
Et pourquoi la femme rurale?
La femme rurale, vous savez que, en tout cas pour ceux qui est de notre pays, les thèmes tombent bien. Mmh. La population est estimée à 70 millions d'habitants, dont 70% vit dans le milieu rural. Mmh. Et comme la femme constitue 52% de la population, donc c'est là où nous allons trouver le gros. Le grand nombre de femmes.
Et quelle est l'importance de cette femme rurale? Parce que nous savons que cette femme, elle vit dans les milieux ruraux, dans les campagnes. Et les campagnes, nous savons que c'est l'endroit où il y a le lieu de production même d'une grande partie des denrées, des matières essentielles, essentiellement agricoles. Et ici en RDC, quelle est l'importance de cette femme rurale?
La femme rurale, il faut revenir un peu à notre système de production vivrière pour comprendre son importance. Notre système de production vivrière découle de la division du travail ancestral qui voulait que l'homme puisse faire le gros, le travaux lourd.
Donc par exemple défricher, qui avait une forêt, de pouvoir abattre les arbres.
Défricher, chasser. Et ça, c'était le travail masculin. Alors, à la femme était réservé le travail léger.
Pouvoir cultiver, s'aimer.
S'aimer, cultiver, entretenir les enfants, préparer. Maintenant, avec la sédentarisation de la population, il n'y a plus eu, les forêts à défricher deviennent de plus en plus rares. Les animaux ont été domestiqués. Donc, ce qui fait que quand vous arrivez dans le monde rural, on a l'impression qu'il y a en tout cas
un déséquilibre entre le travail de l'homme,
le travail de l'homme et de la femme.
De la femme.
L'homme semble être au chômage, pendant que la femme est suroccupée. Elle est tout le temps au travail. Alors, qu'on s'est penché sur elle aujourd'hui, je crois que c'est l'équité. Et puis, quand vous faites le compte des choses, vous allez trouver que cette femme participe avec son travail, avec ses activités agricoles, à 80% du revenu du ménage. Donc, il faut, et puis, par-dessus marché, elle est extrêmement pauvre. Alors, il est tout à fait normal que si aujourd'hui, la communauté, tant nationale qu'internationale, s'est penchée sur sa condition de vie, en tout cas, je crois que là, on va faire vraiment œuvre utile.
Donc, c'est réfléchir comment peut-être alléger la tâche de ces femmes, comment elles peuvent s'épanouir et continuer, bien sûr, à travailler, et surtout investir dans ces femmes pour le développement. Parce que nous savons, bien sûr, que lorsqu'on investit dans la femme et la jeune fille, c'est vraiment c'est investir le capital humain qui représente une grande tranche de la population, comme vous l'avez si bien expliqué. Et nous allons écouter nos auditeurs qui vont nous dire comment eux ils pensent qu'on puisse investir dans la femme rurale et la jeune fille. Arsène est déjà en ligne, et Mary aussi Jean, et aussi nous allons lire quelques messages qui nous sont parvenus à travers pa@radiocapi.net ou encore les avis postés sur la page Facebook Parole aux auditeurs, la page qui porte le logo de Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Arsène. Arsène, bonjour.
Ernest ou Arsène?
Ah, c'est plutôt Ernest. Excusez-nous Ernest, vous avez la parole.
Merci bien. Okay, d'ailleurs, je commence par saluer toutes les femmes rurales, en honneur aujourd'hui par le thème national. Mais nous constatons que le thème national est bien pensé, adapté, mais cette femme ne se retrouve pas. Parce qu'au niveau de notre dans nos provinces, moi je suis en province, mais quand nous faisons les villages, mais nous réalisons que ces femmes sont abandonnées à elles-mêmes, non seulement par les occupations champêtres, mais elles ne se retrouvent pas dans les établissements de leurs enfants. Tout ce que ces femmes produisent, c'est pour les manger. La production ou les rendements à caractère national ne se retrouvent pas. La femme travaille, lui, juste pour la subsistance alimentaire familiale et pour investir dans ses progénitures pour les biens alimentaires. C'est comme cela que nous pensons. Si le gouvernement pouvait revaloriser le niveau et le revenu rural, c'est mieux dépenser aux actions qui permettraient que la production locale de ces femmes soit utile et vendue et pour produire des intérêts. Si en retour, elle sera capable d'investir dans ses propres enfants, dont la jeune fille. Sans quoi, elle va se retrouver fatiguée pour avoir rien de réalisé comme travail, parce qu'elle-même s'épuise et ne va même pas au-delà pour être informée au niveau de l'école. Et surtout, les formateurs de ses enfants, toutes les campagnes pour venir dans le centre-ville. Voilà comment la femme rurale est en perte de vitesse dans l'organisation de la vie nationale.
Donc, à votre avis, elle est abandonnée. Il faudrait qu'on puisse la former, aussi augmenter son revenu. Cela permettrait son épanouissement. Merci, Ernest de Matadi. Et Mary, vous êtes à Boutembo. Bonjour. Bonjour, Mary.
Bonjour, madame la journaliste.
Nous vous écoutons, Mary.
Oui, je dis sincèrement merci pour cette opportunité que vous m'accordez. Vous savez, on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Laissez-moi passer au peigne fin ce qui suit. Les femmes jouent un grand rôle dans la société. Quand elles sont à la maison, elles assurent l'éducation des enfants, le ménage, etc. Et à divers cas, elle intervient dans les foyers. Cependant, ce comportement reste à désirer d'une part que 8 mars, certaines profitent de l'occasion d'obliger son mari à l'acheter des pagnes, des jupes qui coûtent énormément trop cher. Et au défilé, on les voit vestir des modèles qui les déshonorent, madame. Et d'autre part, après leur défilé, elles se réunissent dans la consommation des primices, des champagnes, des vagabondages inutiles, et ceux-ci sont ramassés car dans la nuit ils sont violés par des gangsters de la rue. Donc, la date du 8 mars, il n'y a plus de grossesse indésirable, il y a des divorces dans divers foyers. Alors, les femmes congolaises en général et les jeunes filles qui en constituent l'avenir du Congo, elles ne doivent pas seulement viser des hautes fonctions politiques pour être représentées. Elles peuvent par exemple s'enrôler aux différentes filières de l'État. Je cite la police, l'armée, les cours et tribunaux, dans des transports à commettre des biens et des services, comme le font les hommes pour y arriver, je disais, je crois, solution, madame. Les femmes et les filles congolaises doivent d'abord s'aimer. Elles doivent prendre connaissance sur son état de conscience au lieu qu'elles passent qu'elles seront nommées comme des ministres et dans des telles ou autres fonctions politiques. C'est-à-dire, elles doivent s'impliquer dans la politique en envoyant et en votant ses représentants à tous les niveaux des élections. Et toi, pour finir, madame, l'État doit encourager toutes ces femmes qui font des gestes louables à la nation. Nous en encadrons toutes ces jeunes filles dans l'éducation et aux médias de continuer à éduquer les femmes congolaises.
Merci, Méry.
Merci, madame la journaliste.
Merci, Méry. Vous voulez vraiment aller dans les généralités. Aujourd'hui, nous parlons de la femme rurale, mais la femme rurale fait partie aussi de toutes ces femmes qui soit occupent des fonctions politiques ou qui vivent dans les milieux urbains. Vous avez fait une généralité. J'espère que vous allez rester branchés, bien sûr, sur Radio Kapi à partir de Butembo où vous nous suivez sur la 92.9 parce que notre invité va réagir à tous vos commentaires, toutes vos déclarations. Elle va nous dire ce qu'elle pense de la manière dont vous voyez les choses. Encore une fois, merci Emery de Butembo. Nous revenons ici à Kinshasa. Jean, bonjour.
Bonjour Marie Chantal, bonjour Radio Kapi, je salue aussi l'invité, je vous souhaite une bonne fête.
Merci beaucoup. Et la femme rurale, pour vous, comment investir dans cette femme?
Ok, je vais y revenir, mais néanmoins je voulais un peu faire une petite remarque à l'invité qui a dit que le 8 mars, arrêter la femme doit s'arrêter pour réfléchir sur son corps. Bon, c'est vrai, mais ce que nous regrettons est que c'est seulement le 8 mars ou la semaine de mois de mars que on fait beaucoup de bruit autour de cette histoire de la fête plutôt de 8 mars. Pourquoi? Parce que chaque année, il y a toujours des propositions, des projets, des différents thèmes qu'on aborde. Mais ça se termine seulement au même mois. On ne voit pas vraiment l'impact sur
Jean, demain nous allons organiser une émission concernant, vous allez faire des témoignages pour que nous puissions savoir comment s'est déroulé le 8 mars dans vos milieux. Mais aujourd'hui revenons sur la femme rurale, la femme qui est mise en exergue cette année dans le thème national, et on voudrait aujourd'hui en parler parce que nous avons dit que 70% de la population vivent dans le milieu rural. La femme, c'est 52% de cette population. Aujourd'hui, parlons de cette femme. Qu'est-ce qui peut être fait pour investir dans cette femme? Nous n'allons pas encore retourner dans les généralités. Demain, nous le ferons. Dites-nous, qu'est-ce que vous proposez? Comment vous entrevoyez un investissement dans la femme rurale?
Ok, merci beaucoup vraiment pour me faire appel là. Alors, nous allons tout droit au but. Nous disons que on doit commencer par l'alphabétisation de ces pauvres femmes rurales. Parce que quand nous parlons de femmes rurales, non pas seulement à celles qui n'ont pas étudié, à celles qui sont à la merci des hommes, qui sont torturées par les différents travaux champêtres et puis la maternité. Donc, il faut qu'on fasse l'alphabétisation de l'instruction. Donc, à ce niveau-là, à partir des sections des villages, puisque dans nos villages, l'alphabétisation n'est pas arrivée. Et si les femmes rivières doivent être sélectionnées, doivent être prises en compte quand on prend une décision, même dans leur village là-bas, il faut aller parler avec ces femmes-là. Puisque généralement, on s'arrête dans les grandes cités, mais la femme qui est au fesson là-bas, on ne s'occupe pas d'elle. On reçoit des investissements, d'accord, pour financer le projet des femmes rivières, mais ces investissements n'arrivent pas là-bas, n'atteignent pas la base. Et ce qui fait aussi l'inquiétude de leur part, ils coupent toujours dans leur misère, elles sont toujours abandonnées à leur triste sort. Alors, je souhaiterais à ce que, pour cette année ici, et puis qu'on a mis l'accent sur ça, le thème est vraiment éloquent, que les ministères de genre et famille et tout ça, qu'on puisse mettre l'accent là-dessus et puis appliquer cela à la loupe. Mm-hmm. Pour qu'on puisse aussi élever le niveau de cette femme qui est le moteur même du développement, le moteur du grand développement de notre grand pays.
Merci beaucoup Jean de Kinshasa. Nous allons lire ce message de bienvenue Songo. Un vrai investissement passe par... Il faudrait qu'on puisse inculquer des vraies valeurs, des valeurs morales, le savoir-vivre. Il faut encadrer ces personnes dans le sens qu'elles se donnent à pouvoir respecter et à pouvoir endosser ces grandes valeurs, avoir une grande vision et le travail, il faut nécessairement du travail pour permettre à ces femmes de pouvoir mieux évoluer. Charles Essombo et Allé nous écrit ceci. Pour investir dans la femme rurale, il faut lui donner le pouvoir d'accès aux initiatives de renforcement des capacités pour lui permettre d'accroître sa participation dans les instances de prise de décision et la gouvernance au niveau local. Jennifer, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour.
Jennifer, nous vous écoutons. Comment investir dans la femme rurale?
Bon, madame, aujourd'hui, je crois qu'il faudrait mieux, au lieu de s'arranger, prendre des pailles à gauche, à droite, faire ensuite des filets, prendre un verre, tout ça. Je crois qu'il serait mieux de se focaliser sur les enfants qui sont à l'intérieur, les femmes à l'intérieur, essayer de les éduquer, de les instruire, de former des micro-usines à l'intérieur pour que ces femmes puissent arriver à se prendre en charge. Quant à la jeune fille, ce qu'il y a de mieux pour elle, je crois que c'est l'école.
À partir d'une bonne formation, elle peut arriver à s'en sortir. Merci beaucoup, Jennifer de Kananga. Théodore, vous êtes en Boujoumé, bonjour.
Bonjour et bonne fête, Marie-Chantal.
Merci, Théodore. Et quelles sont vos propositions?
Pour moi, l'investissement dans les sous rurales et les femmes rurales relève toujours du pouvoir public. À travers les administrateurs du territoire, en passant par les chefs de secteur et finir même par les chefs coutumiers, qui, d'ailleurs, préfère aujourd'hui habiter en ville, comme citadin, en étant chef coutumier. C'est nous déplorons. Vous savez, dans nos villages, les femmes rurales ont des recommandations qu'elles font auprès de leur mari indirectement. Donc, par exemple, il y a le problème de l'eau potable, il y a la nourriture, il y a le feu, du sol, du savon, et l'habillement. Les mêmes femmes sont utilisées pour les travaux champêtres. Elles doivent mettre au monde des enfants, elles doivent aussi scolariser. Pour ajouter toujours à leurs besoins, il faudra un hôpital, les marchés publics, les écoles, sans oublier leur sécurité. Et pour terminer, comme investissement, pour moi, il faut construire des hôpitaux et des écoles dans les milieux ruraux, construire des routes et des chats agricoles pour l'évacuation de l'air produit des milieux ruraux vers la ville. Construire aussi des cantines, des ravitaillements, un habillement, du sel, savon, beaucoup de besoins. Moderniser le soutirage des cartages d'eau pour les rendre potables. Et lutter, pour terminer, aussi contre l'analphabétisme des filles en particulier et des femmes en général. Je salue toutes les femmes rurales.
Merci beaucoup Théodore de Mbujimaï de vos propositions pour alléger le travail de la femme et investir en elle. J'adore, vous allez rester en ligne le temps qu'on puisse redonner la parole à notre invité. La réalisation me fait signe qu'il est préférable que vous passiez d'abord, comme ça nous allons écouter quelles sont vos propositions. Bonjour Jadot.
Bonjour Marie Chantal Lumba, bonjour toutes les femmes de la radio Kaki, je leur souhaite bonne fête.
Merci beaucoup. Dites-nous quelles sont vos propositions, Jadot.
En fait, nous sommes, moi je suis ici à Dissoussouti, c'est juste une localité. Comme la journée d'aujourd'hui on parle de la femme rurale, nous vivons réellement les réalités de la femme rurale. Je voudrais passer d'abord à une petite description des activités faites ici chez nous. Nous sommes à montagne, souvent les activités principales, c'est l'agriculture. Et si la femme ici de Masereka, c'est une femme qui fait beaucoup d'activités dans le cadre du commerce, et c'est elle la source principale des revenus de la famille. Mais ce que nous constatons, c'est quoi? C'est une femme qui est laissée à son triste sort. Elle n'a aucun appui. Les hommes, qu'est-ce qu'il faut? Ils restent tout le temps dans la barza, en train de raconter des choses là. Et la femme va au chat, elle va faire tout ce qu'elle peut faire. Le soir, elle arrive, elle entretient la cuisine, elle entretient les enfants. Alors, elle reste victime d'une mauvaise volonté des hommes. Alors, ce que nous pouvons proposer, c'est quoi? C'est que notre gouvernement congolais puisse améliorer les conditions sécuritaires de cette femme. Vous savez, ici nous sommes près de la forêt du Mochavirim où on a déployé un arsenal important de militaires qui tracassent maintenant les femmes dans les champs. Et si, lorsque les femmes vont au champ, les militaires vont mettre les barrières, les militaires vont faire n'importe quoi, ça fait une sorte de frustration et la femme ne se retrouve pas dans un climat pacifique de pouvoir mettre ses activités agricoles. Alors, le gouvernement congolais devait repasser la question. Comment est-ce qu'elle veut permettre à ce que toutes les femmes qui se retrouvent dans les milieux ruraux puissent avoir un climat sécuritaire pour augmenter le niveau de la productivité de notre de nos produits ouvriers ici surtout à l'est. Nous souffrons de la sécurité. Et la femme est la première victime parce qu'au chat elle est violée par les forces négatives qui se retrouvent dans les forêts et lorsqu'elle arrive au marché, il y a aussi des tracasseries pour les agents qui sont chargés de recouvrer les taxes de l'État. Alors elle se retrouve partout marginalisée. Alors, ce que nous devons proposer au gouvernement congolais, c'est que le gouvernement congolais puisse éviter la discrimination, surtout les députés qui sont passés. Il y a des discriminations qui sont dans les codes du commerce où on dit la femme ne peut jamais exercer le commerce si elle n'a pas l'autorisation maritale. Soit dans les codes de la famille, cette clause qui continue toujours à donner à l'homme et une prérogative d'être le chef de la famille, elle continue toujours à être dans notre code de la famille. Dans les codes du travail, donc, c'est autant de discriminations à laquelle est soumise la femme, et pourtant on oublie que c'est elle, on dit dans l'éducation civique, que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, lorsque vous mettez la femme dans les bonnes conditions de travail, nous aurons aussi un peuple éduqué et nous aurons un État prospère.
Merci, Jadot. De Loubero, Loubero, bien sûr, c'est dans la province du Nord Kivu.
Merci beaucoup.
Parole aux auditeurs.
Madame Christiane Maneno, vous avez suivi nos auditeurs. En tout cas, presque tous sont revenus sur le fait que la femme, c'est elle qui fait presque tout dans le foyer. Elle porte toute la charge, que ce soit sur le plan économique, éducationnel. La femme fait la grande partie. Et même le dernier auditeur qui dit que les femmes font tout, les hommes sont dans les bazars en train de papoter. Pourtant, c'est les femmes qui papotent, sérieusement, en l'écoutant. C'est la femme qui fait presque tout. Dites-nous, comment vous réagissez d'une manière globale face aux avis des auditeurs avant qu'on puisse revenir sur les spécificités comme l'allègement, de revoir par exemple certaines codes qui ne favorisent pas la femme. D'une manière générale, quelle est votre réaction en écoutant ces auditeurs?
En tout cas, je remercie nos auditeurs, en tout cas tous ceux qui sont passés aujourd'hui. M'encourage dans ma vision des choses. parce que je suis passée hier sur les antennes de Radio Kati. Mm-hmm. J'ai eu des réactions des gens qui m'ont suivi. Il y en a qui étaient contre, qui m'ont dit que c'est pas possible, vous faites comme si l'homme devenait sénéant. J'ai beau expliquer que c'est ça l'image qui est affichée dans nos villages. Si en ville, les choses se passent autrement, c'est l'homme qui, dans un premier temps, travaillait pour la femme. Et la femme restait à la maison juste pour s'occuper du ménage, s'occuper des enfants. Mmh. Et l'homme devait pourvoir à tout. Dans les villages, ce n'est pas ça. L'homme ne chasse plus, tous les animaux ont été domestiqués. L'homme ne détruise plus parce qu'il y a sédentarisation et la population, donc il n'y a plus, donc, plus de forêt.
Ce témoignage démontre que la femme dans le milieu rural, c'est elle qui fait,
la quasi-totalité. Quand l'homme travaille, c'est pour fabriquer peut-être la boisson alcoolisée et pas pour autre chose.
Mmh.
Et ça me réjouit et vraiment, ça démontre qu'il était grand temps qu'on puisse se pencher sur ce problème de la femme rurale.
Il y a un auditeur qui est revenu sur l'instruction de la femme, lutter contre l'analphabétisme et aussi voir dans quelle mesure augmenter son revenu. Comment il va être
fait? Non, je vais y revenir.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, je crois en toute première chose. Il faut sensibiliser d'abord le partenaire. Et cette sensibilisation n'est pas impossible.
Quand vous faites allusion au partenaire, quel genre de partenaire?
Le partenaire masculin, donc l'homme qui vit avec nous.
Mm-hmm.
Au plateau de Bateke, ça c'est une expérience qui est partie de Mampou, où il y a eu sensibilisation et un homme a essayé d'aider sa femme dans la fabrication de la chikwang. Lui, donc quand sa femme rentrait avec ce que nous appelons les bimpuka, donc le manioc, il pilait et il aidait en tout cas à piler avec sa force masculine et un homme non fatigué, donc il s'est reposé toute la journée. Il est arrivé à faire du budget de ménage à l'équintité. Alors, les autres hommes tout autour de lui ont suivi parce que la femme de cet homme-là, elle était beaucoup plus dispo, elle était mieux habillée, elle mangeait mieux. Donc, cette famille...
Et peut-être qu'au début, il y avait des moqueries.
On se moquait de cet homme à Mampou. Tous les hommes, c'est eux qui pilent en tout cas. Le travail de piler le manioc, c'est les hommes qui le font aujourd'hui. Et la vie a changé là-bas.
Mmh.
Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, évidemment, ça doit passer par l'éducation pour que nous espérions quelque chose de mieux pour la femme. Ça doit passer par l'éducation. Mais cette femme qui est femme aujourd'hui, je crois que cette éducation, ce n'est plus pour elle. L'éducation, c'est plutôt pour préparer l'avenir.
Mm-hmm.
Pour préparer maintenant que nous puissions couper cet état des choses et que les générations à venir puissent vivre une vie autre que la vie que nous vivons aujourd'hui.
Mmh.
Alors, il y a évidemment des actions qu'on doit faire directement vers la femme. Je peux parler, par exemple, au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a un point de mire que dans le programme, en tout cas du ministère, qui est le programme de mécanisation agricole.
Mmh.
Ça, pour alléger le travail de la femme et préparer donc le terrain pour qu'elle puisse maintenant cultiver, parce que la mécanisation c'est juste pour labourer, herser et tout, donc préparer le terrain pour qu'elle puisse maintenant travailler, a participé énormément. Mais la mécanisation telle qu'elle est conçue aujourd'hui, n'arrange pas tellement la femme. Parce que la femme fait quasiment partie des petits exploitants agricoles. Et comme elle est petite exploitante agricole, c'est plutôt une mécanisation intermédiaire. Donc, la motoculture, la vache,
l'attraction
bovine, oui.
Ça dernièrement, il y a eu même distribution des tracteurs dans la plupart des provinces. Nous avons eu à organiser plusieurs émissions concernant ce sujet-là. Effectivement, les associations féminines n'ont pas pu bénéficier de ces tracteurs. Donc, en vous écoutant, c'était une certaine catégorie. Ça dépendait de la quantité à produire ou du nombre d'hectares que vous possédez.
Et à ça pour les associations ou pour les individus, mais du côté de l'État, nous avons ce que nous appelons les bassins de production. Par bassin de production, il faut comprendre une zone à haute potentialité agricole qui a une densité de la population remarquable et qui a accès à un marché d'écoulement.
Mm-hmm.
Là, dans toutes ces zones-là, on y a placé un centre de mécanisation. Et à partir de ce centre de mécanisation, donc on peut louer des tracteurs. Donc tout le monde ne doit pas absolument avoir un tracteur pour lui-même. Parce qu'un tracteur, c'est 5 hectares à 8 hectares par jour. Quand vous avez 50 hectares, donc au bout de 10 jours, vous avez fini et vous faites quoi de ce tracteur-là? Donc, pour avoir un tracteur, il faut être dans les 300 hectares. Or, tout le monde n'a pas ces 300 hectares. On peut avoir ces 20 hectares, on n'a pas besoin d'un tracteur pour autant. Mais on peut louer les tracteurs. Mais tout le monde n'a pas non plus 20 hectares. Il y a des gens qui ont juste un hectare. Mmh. Il y a des gens qui ont même un demi-hectare. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont très peu de terres qu'eux ne doivent pas être bénéficiés des bienfaits de la politique du gouvernement.
Mais concernant l'augmentation du revenu de la femme, qu'est-ce qui est envisagé? Parce qu'effectivement, plus la femme est pauvre, et plus facile, elle doit fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir s'en sortir.
Pour pouvoir s'en sortir, évidemment, ça c'est un lancement. Et donc, je dois d'ailleurs avouer que depuis l'accession du pays à l'indépendance, beaucoup de programmes agricoles ont été lancés par le gouvernement. Et ces programmes ont produit des résultats par-ci, par-là. Mais au vu des ressources du pays,
mmh,
et au vu des besoins, c'est insignifiant. Donc c'est vraiment négatif quand on doit juger par ça.
Mmh.
Mais par-ci, par-là, il y a des résultats qui sont produits.
Est-ce que ce n'est pas lié au fait que certains projets ne sont pas, par exemple, élaborés en compagnie de ces femmes?
Non, je vais en revenir.
Mmh.
Bon, mais ces centres de production, ces centres de mécanisation, on ne doit pas s'arrêter seulement au labour. On doit les renforcer par d'autres machines, ne fût-ce des machines de transformation primaire, c'est-à-dire des égrineuses, des moulins, des presses à l'huile, selon la production de chaque bassin de production.
Mm-hmm.
Donc, on doit pouvoir compléter ces tracteurs par ces machines-là.
Donc, ce sont encore des projets. Mais oui. Non, pour la femme actuelle.
Donc, pour la femme actuelle. Donc, le projet, ça, pour pour identifier la production de chaque bassin de production. Chaque bassin de production, de toute façon, c'est connu.
C'est connu.
Quand on sait que Tikwit, par exemple, c'est le manioc. Bateke, c'est le manioc.
Mm-hmm.
Bon, et mettre là-bas des machines pour faire la transformation primaire de ce manioc-là, ce n'est pas difficile. En tout cas, tout a été identifié. Là où on produit le riz, on doit mettre des cortiqueuses. Hein, la femme ne doit plus piler son riz pour pouvoir le décortiquer.
C'est l'avis de notre auditeur de Mujimaï qui a parlé de l'accès aux soins de santé, voir dans quelle mesure mettre en place le drainage pour la desserte en eau.
La desserte en eau, oui.
Et il y a aussi un auditeur qui est revenu sur la sécurité parce que c'est assez nécessaire, qui est cette sécurité. Mais revenons sur le code, la législation. Est-ce qu'il y a des démarches, il y a des actions qui sont menées actuellement pour essayer de changer, d'améliorer certaines lois pour favoriser en fait la femme rurale?
La loi agricole a été promulguée le 24 décembre 2011. Donc, c'est encore tout récent. Cette loi, en tout cas, prévoit beaucoup de choses qui vont faire que les choses puissent changer dans le monde rural. Dans le monde rural, par exemple, au niveau des territoires, pour ceux qui ont parlé de la participation de la femme rurale dans les prises de décision, dans le monde rural, les quartiers dont on parle ici, qui sont dans les centres de mécanisation, ils sont gérés à la fois par un représentant de l'agriculture, un représentant des confessions religieuses et un représentant des organisations paysannes.
Donc, on essaie un peu de faire participer.
De faire participer.
Donc, madame, nous allons écouter d'autres auditeurs qui sont vous. Puis nous allons revenir à vous pour réagir face aux avis des auditeurs et nous dire ce que le ministère est en train de faire pour la femme rurale.
J'aurais voulu quand même, avant que je n'oublie, qu'on puisse revenir à cette date-là du 8 mars. On dit qu'on s'arrête seulement au 8 mars. Et on ne voit plus rien après ça.
Nous allons y revenir, madame, ne vous en faites pas. Prenons madame Espérance Mawazo, qui est directrice de l'Observatoire de la parité. Bonjour, madame.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous parlons de la femme rurale. Aujourd'hui, vous vous battez pour la parité homme-femme. Et le thème, c'est investir dans la femme rurale. Vous menez beaucoup plusieurs actions concernant la parité. Et dites-nous, pour la femme rurale, comment vous entrevoyez l'épanouissement de cette femme?
Ben, écoutez, pour moi, l'épanouissement de la femme rurale, et d'abord, quand on parle de la femme rurale et en révélant la journée d'aujourd'hui, nous, on est un peu choqués de voir qu'il y a une fois organisée au niveau des Kinshasa pour les femmes rurales, mais là où les femmes vivent vraiment, des femmes paysannes dans des provinces, et ces femmes-là qui produisent beaucoup pour la population, pour le développement même du pays, ces femmes-là sont nettement oubliées. C'est dans les cas d'ici, à Bukavu par exemple, on a déplacé les destinées de la ville pour l'amener à Kakumu, donc à 300 km de la ville. C'est juste pour...
Nous avons des problèmes avec la liaison téléphonique, de Madame Espérance Mawazo. Peut-être que la réalisation va essayer de pouvoir la recontacter, mais en gros, elle était en train de dire, elle s'étonne de voir que souvent, ces activités pour la femme rurale ne se déroulent que dans les grandes villes et non dans les milieux ruraux. Mais elle m'a donné l'exemple à Bukavu. On a quand même déplacé ce défilé pour être le plus proche possible de la femme rurale. Le temps de prendre Albert aussi qui se trouve à Kananga. Bonjour Albert. Albert, bonjour. Il y a un problème avec Albert de Kananga. Peut-être que Jean est avec nous. Bonjour Jean.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons Jean. À votre avis, comment investir dans la femme rurale?
Bon, moi je vois que la femme rurale est totalement négligée par le ministère là et la maman est en train de soutenir. Parce qu'à l'époque ancienne, on remettait des outils de travail pour l'agriculture, mais actuellement, l'État congolais. Vraiment, vous pouvez arriver dans nos villages ici, vous trouverez jamais le soutien même de l'agronome du secteur pour appuyer ce que la femme rurale est en train de faire. Il y a même la fête d'aujourd'hui. Vous sentez qu'au niveau du village, il n'y a rien. Donc, il n'y a même pas quelqu'un ou une femme qui est allée, qui a quitté Kinshasa pour sensibiliser nos femmes au niveau du village pour que les gens puissent se traiter aussi, puissent se sentir qu'elles sont intégrées. Je pense que les femmes qu'on est en train de soutenir, ce sont des femmes qui se trouvent dans les villes. Par exemple, maman, Lukiana, elle parle des femmes là-bas, c'est tout, elle est bien là, tout ça. Mais elle n'a jamais même passé un temps pour arriver ici à Kikout, là où elle est née, même dans les villages, pour voir comment la femme rurale travaille. Mais elle est là, elle parle toujours des femmes. Je crois que nos femmes au niveau du village sont négligées. Mais quand on les doit penser que quand on met une femme au niveau du ministère, elle doit sortir, elle doit voyager, elle doit voir comment les femmes sont au village négligées. Vous me parlez d'un représentant de la culture, un représentant de religieux. Moi, je vois que tous ces représentants-là qu'on peut mettre à ce qui concerne les femmes, qu'on peut aussi des femmes rurales qu'on nous mette là-bas.
Merci beaucoup, Jean. Il y a beaucoup de personnes qui veulent participer à cette émission. Donc, à votre avis, il faudrait que Madame la ministre puisse visiter tous ces milieux ruraux. Mais n'oublions pas que l'administration organisée de telle manière qu'il y a une certaine décentralisation. C'est vrai qu'au niveau de Kinshasa, nous avons ce ministère. Au niveau de la province, il y a aussi des divisions provinciales. Il y a aussi, au niveau du territoire, des sous-divisions. Mais vous souhaiterez que, quand même, la ministre puisse quand même visiter tous ces milieux. Et vous avez constaté, comme d'autres auditeurs, que la femme rurale est délaissée. Nous revenons à Madame Espérance Mawazo. J'espère que cette fois-là, la liaison téléphonique s'est améliorée. Madame, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, madame.
Donc, vous êtes en train de dire qu'à Bouka, vous avez déplacé le défilé pour être le plus proche possible de la femme rurale. Nous vous écoutons.
Mais c'est pour montrer qu'on est proche de ces femmes rurales. Mais chose que les femmes qui sont en train de défiler, ce ne sont pas les femmes qui vivent dans ces territoires. Moi, je me dis, les thèmes investissant dans la femme rurale, est-ce que les femmes paysannes, elles savent au moins ce que ça signifie. Aujourd'hui, il y a des filets, ça crie, ça pompe, et demain, le lendemain, on va oublier. Moi, je demanderai même au ministère du Champ, à travers même ces divisions qui sont au niveau des provinces, de voir déjà à l'avance, puis une année à l'avance, avant, si on avait déjà préparé la femme rurale par rapport à ces thèmes, elle allait donner ses avis, elle allait donner tout ce qu'elle aurait déjà pour qu'on fasse pour elle. Donc, la journée d'aujourd'hui allait être meilleure pour elle. Donc, aujourd'hui, cette journée-là, ça restera comme les journées des autres 8 mars passés dans notre pays. Donc on n'investit vraiment pas dans la femme comme telle. Donc, aujourd'hui, on est en train de faire encore, je ne sais pas si c'est récupéré par les autorités. Or, les revendications du 8 mars devraient être faites par c'est la base, par la femme rurale qui elle devrait être écoutée. Aujourd'hui, sa journée, elle devait dire ce qu'elle dit. Parce que c'est elle qui rapporte plus de 60% de développement. C'est elle qui fait nourrir plus la population.
Donc, à votre avis, il faudrait nécessairement préparer cette femme pour qu'elle puisse revendiquer. On a l'impression que c'est un problème plus des femmes qui vivent dans le milieu urbain. Merci beaucoup, Madame Espérance Mawazo. Nous allons lire ces quelques messages et puis redonner la parole à notre invité. Il y a Junior TMB, il faut instruire la femme congolaise, soit sur le banc de l'école ou par des formations divers métiers, ce qui permettra à cette femme aussi d'avoir les connaissances et aptitudes de bien se défendre dans la société. Ingénieur Gift qui se trouve à Boutembo, je dis que la femme rurale sera mise en valeur si elle visait l'excellence elle-même et elle prendrait conscience de ses valeurs. Donatien Kamwanga de Kalemi, la femme rurale doit être vulgarisée en matière de gestion du milieu pour se libérer du fléau qui frappe cette dernière. Elle est victime des coutumes. Rodrigue Kalumendo de Boutembo, investir dans la femme, cela viendrait d'abord d'elle-même et après viendront les efforts des autres et surtout du gouvernement. Les femmes doivent prendre conscience, mais aujourd'hui, nombre sont celles qui pensent qu'à fêter et au lieu de trouver des solutions durables. Passion Moulouo, la journée mondiale de la femme est une journée d'aider aux femmes pour réfléchir sur leur part à porter dans la société et ici à Goma, nous avons l'impression que les femmes sont négligées et certaines institutions, même les élèves, même les filles se présentent à l'école en uniforme et étudient. comme si rien n'était. Et donc, pour nous, il faudrait que ce soit une grande journée. Alfred Moulamba, investir dans la femme rurale, c'est lui donner une éducation profonde et punir les auteurs des mariages précoces et lutter contre la dépravation des mœurs. Bonjour Malonga. Malonga, bonjour.
D'abord.
Vous êtes ici à Kinshasa. Dites-nous comment investir en la femme rurale.
Oui, en tout cas, je peux vous raconter d'abord ce que je vis ici. En bref, vraiment,
donc,
je vois...
Donc, Malonga, demain, oui. Nous parlerons des festivités. Aujourd'hui, nous réfléchissons pour améliorer les conditions pour cette femme rurale. Qu'est-ce que vous vous proposez, Malonga? Demain, nous parlerons carrément de la femme, comment ça s'est déroulé chez vous, les festivités, qu'est-ce que vous avez remarqué, qu'est-ce que vous avez constaté. Mais aujourd'hui, revenons sur cette femme rurale.
Ok, ça va. Pour si une femme rurale se retrouve dans un ordre de la féminité, il faut que l'esprit de la bassesse d'abord sorte d'elle. Pour que les femmes rurales, elles sont dominées par l'infériorité de la capacité, s'il vous plaît.
Donc elle se trouve dans un complexe d'infériorité.
Voilà, elle se croit qu'elle est toujours cible d'exploitation. Même une femme qui quitte de l'asile, elle va là-bas, elle doit l'exploiter, elle doit faire tout ce qu'elle veut pour chercher son intérêt et rentrer chez elle.
Mm-hmm.
Alors, pour la faire sortir de cette manière, il faut d'abord organiser des ateliers, des séminaires, des rencontres de cette femme, puisque la femme est rurale. En tout cas, elle-même d'abord, elle s'oublie. Alors, il doit y avoir une type, soit de femmes, ou bien de quelques hommes, pour renforcer les capacités, en fait, de faire sortir les femmes rurales à cette complexe de terrorisme.
Merci beaucoup, Malonga, pour vous lutter contre ce complexe, ce qui permettra à la femme de pouvoir s'épanouir. Nous allons revenir dans ce studio pour pouvoir à nouveau donner la parole à notre invité.
Parole aux auditeurs.
Donc encore une fois, la femme rurale négligée, délaissée sur la sensibilisation, est-ce qu'elle-même elle se rend compte, est-ce qu'elle sait qu'aujourd'hui cette journée est dédiée à elle, à toutes ces femmes qui vivent dans le milieu rural. Madame Christiane Maneno, dites-nous, à ce niveau-là, côté sensibilisation, côté information, qu'est-ce qui a été fait?
Bon, je crois que nous ne devons pas trop nous lamenter là-dessus. Kinshasa, c'est le centre de prise de décision. Et quand nous voulons vraiment que quelque chose se fasse pour cette femme rurale, je crois que ce n'est pas seulement en allant la sensibiliser sur son terrain qui va faire changer, qui va faire bouger les choses pendant pas seulement une année. Moi, par exemple, j'ai 3 ans et demi dans le ministère de l'Agriculture où je m'occupe de l'encadrement de la femme. Donc, j'ai eu 3 ans et demi pour étudier la femme, pour recueillir ses aspirations les plus profondes.
Mais vous allez les rencontrer pour recueillir ses aspirations.
Donc, aujourd'hui, j'ai fait mon analyse et je rends ça auprès des décideurs. Donc, pendant 3 ans et demi, j'ai eu à travailler avec elle. Donc, c'est ça le bilan que je donne. Donc, l'état des lieux de la situation et tout, et les propositions de solutions qui peuvent faire que les choses puissent changer positivement pour elle, qu'on puisse changer son destin. Alors, donc, nous ne devons pas oublier cela. C'est ici à Kinshasa où on doit bouger. C'est ici où il y a les bailleurs de fonds, c'est ici où il y a le gouvernement, c'est ici où on prend les décisions.
Mais si la femme rurale, dans son milieu, dans son village, si elle est arrivée à pouvoir réclamer, à revendiquer, cela peut arriver aussi plus facilement qu'à Kinshasa, au lieu que ça vienne de Kinshasa vers les provinces.
Non, ce que je suis en train de dire, même ce que maman, ce que l'excellence Lucian est en train de dire, ça ne vient pas d'elle. Celle qui a dit qu'elle ne descend même pas dans son village,
je ne sais pas. Elle est au niveau national. Si elle ne descend pas dans son village, en tout cas dans d'autres villages, certainement on l'a vu là-bas. Certainement, elle a reçu des rapports venant de là. Donc, elle maîtrise parfaitement la situation sur terrain et ce sur quoi elle est en train de parler aujourd'hui. Donc, on ne peut pas s'imaginer que c'est enfermé dans son bureau et commencer à imaginer des choses à dire sur la femme rurale. Non, ce n'est pas possible, sinon elle n'aura même rien à dire. Pour ceux qui ont parlé de la journée de 8 mars et qu'on s'arrête seulement là, non, je ne crois pas qu'on s'arrête là. C'est une occasion qui est donnée pour sortir tout ce que nous avons pour un thème sur le cœur, pour un thème donné. Mm-hmm. Mais ici, les activités sont intensifiées pendant tout un mois où on sensibilise autour du thème. Mais quand on déclare Journée internationale de la femme, ce n'est pas une journée, ce n'est pas le mois de la femme, mais c'est 365 jours où ils sont dédiés à cette femme. Par exemple, aujourd'hui, c'est la femme rurale, donc pendant 365 jours, on doit pouvoir mener des actions qui doivent sortir la femme de là où elle est aujourd'hui, de sa situation actuelle. Il y a un auditeur qui a parlé des femmes qui sont dans les zones de conflit. Mm-hmm. Bon, c'est dommage. Il est vrai que la paix, la sécurité, ça c'est le rôle régalien qui revient à l'État. Mmh. Bon, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là, mais ce que je peux donner comme conseil, celui qui a parlé au Nord Kivu, mmh. et je sais qu'au Nord Kivu, nous avons un centre de fabrication de biogaz. Et ce centre-là, s'ils arrivent là, ils vont trouver qu'il y a des modèles de culture que nos frères de l'Éthiopie nous ont amenés ici. Donc, ce sont des modèles pratiqués dans les zones arides mmh. et qui peuvent vraiment se dupliquer dans le milieu urbain mmh. et dans les zones à conflit. Parce que où est-ce qu'on va trouver la femme pour la violer? C'est sur son chemin, là où elle va, là où elle va dans le champ, mm-hmm. là où elle va pour chercher l'eau. C'est là où on l'embusque et on la viole. Mais il y a moyen de pallier à cela.
Donc en attendant que la
puisse revenir,
on peut trouver certaines solutions palliatives oui. pour pouvoir éviter, par exemple, à la femme d'aller chercher du bois dans la forêt ou aller épuiser
l'eau. Absolument.
Donc on essaie d'une manière ou d'une autre de pouvoir sécuriser cette femme.
Par exemple, pour le feu, pour le bois, mm-hmm. bon, il y a moyen de fabriquer son gaz à la maison soi-même.
À partir de la bouse de vache.
Absolument. Que de tout déchet venant des animaux que nous élevons, on met tout simplement dans un flux et avec
il y a tout un mélange d'une
procédure. La fermentation, il se forme un gaz et ce gaz là, en tout cas, c'est incombustible.
Donc, il y a autant de choses qu'on peut mettre en place.
Là, à la fois, nous avons un monsieur qui a sensibilisé vers le Bas-Congo sur la culture des Jatopha. Et avec lequel on peut facilement fabriquer du combustible pour nos réchauds, pour nos lampes à pétrole. Et il y a des coins où aujourd'hui, les gens ne payent plus le pétrole. Chacun a son champ de jatopha. D'ailleurs, le jatopha, c'est une plante sauvage dans nos forêts ici. Donc, et dans toutes les provinces, vous trouvez du jatopha. Donc, il suffit d'une petite machine.
l'information.
Et de l'information. Il faut toujours ces 100 dollars. Et vous avez votre
commission. Donc, madame, nous arrivons ici vers la fin de cette émission. Investir dans la femme rurale. En conclusion, à votre avis, qui doit investir dans cette femme rurale pour qu'on puisse savoir et aussi quel est le mot vraiment de la fin pour cette émission?
C'est nous tous, madame. Nous tous, nous devons investir dans la femme rurale. Je viens de parler des histoires de gaz. Je viens de parler de Jatofa. Mm. Je viens de parler de traction animale. Je viens de parler de motoculteurs. Tout ça, ou même des machines de transformation primaire. Mm. Tout ça, n'importe qui, n'importe quelle ONG, y compris l'État et les bailleurs de fonds, peuvent s'investir dedans. Mm. Il y a le problème de la circulation monétaire qui se pose avec acuité dans nos milieux ruraux, mm-hmm. qui sont devenus, en tout cas par excellence, des milieux de troc, mm-hmm. où au lieu que la monnaie circule, nous avons le service sous forme de métayage, nous avons des services sous forme de travaux collectifs. Bon, donc, tout
donc,
ça...
Il y a beaucoup à faire à la femme rurale.
Il y a beaucoup à faire et il y a surtout les 10% du budget national qu'on doit investir dans l'agriculture pour pouvoir sortir l'agriculture de sa misère.
Merci beaucoup. En tout cas, madame, nous sommes arrivés ainsi à la fin de cette émission. Nous remettons également tous les auditeurs qui sont intervenus. Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Nous allons rester sur le thème de la femme. Et demain, vous allez nous dire ce que vous allez constater pour la célébration du 8 mars. N'hésitez pas à témoigner, et sauf que vous pouvez le faire à travers pa@radiocapi.net ou encore en postant votre avis sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. À demain. Oh, that's it, oh, that's it, oh, that's it.